L'hostilité que se portent Hassan Thani et l'opposition politique marocaine est de notoriété publique. Mais Hassan Thani, une fois de plus, surprendra tout le monde par cette étrange réflexion qu'il formule lors d'une interview, lorsqu'on lui demande d'expliquer les divergences, les désaccords, les points de rupture qui survinrent entre lui et le militant de gauche Mehdi Ben Barka, pourtant son professeur et ami à une époque. À cette question du journaliste, Hassan Thani répondra mystérieusement, et je le cite mot pour mot, les divergences entre Mehdi et moi ? Bah, il n'y en avait pas. Écoutez, monsieur, je vais vous donner un conseil, ou plutôt une recette de cuisine très importante si vous voulez vraiment bien connaître le Maroc et ne pas perdre de temps. Ne positionnez jamais l'opposition ou les oppositions dans ce pays comme vous les classeriez ailleurs, chez vous en France par exemple. Là, je vous livre la clé du Maroc. C'était la page 49 de ses mémoires récoltées par Éric Laurent. Plus loin, page 106, le roi insiste. J'espère qu'à travers nos entretiens, on puisse me voir avec transparence. Et j'affirme qu'il n'existait pas de divergence entre Mehdi et moi. Ce genre de propos étonne. Quand on connaît le penchant de Sa Majesté Hassan Thani pour le démantèlement de l'opposition politique sous son règne, et même déjà sous celui de son père. À ce propos, en 1959, c'est d'ailleurs lui, alors prince, qui pousse son père le roi Mohamed Khams à des affrontements très violents avec le gouvernement et avec le peuple dans le Rif par exemple au nord du Maroc. Mohamed Khams voulait alors privilégier une approche pacifiste. Il souhaitait engager un dialogue avec ses dissidents. Mais le prince Hassan était déjà très véhément, très fougueux. Et il était convaincu que pour régner sur une nation aussi effervescente que celle du Maroc à l'époque, il fallait le faire avec une poigne de fer. Et c'est lui qui conseille à son père de montrer les crocs plutôt que de jouer aux diplomates. Il l'avouera lui-même plus tard et révélera que son conseiller, qui avait été ministre d'État, est allé trouver des personnalités politiques que la décision de l'ex-roi Mohamed Khams avait scandalisé. Et je cite ces termes selon Hassan Thani lui-même. « Écoutez, vous êtes vraiment des imbéciles. Vous attendez du roi qu'il vous donne raison contre son fils ? N'attendez jamais qu'il sacrifie le prince héritier pour vous. » Si vous souhaitez avoir l'oreille de Mohamed Khams, devenez plutôt l'ami du prince. » Fin de citation. Ainsi, une fois de plus, l'esprit de Hassan Thani fait preuve de contradiction. À la fois, il affirme ne pas avoir de conflit d'idées avec l'opposition qui, par nature, se positionne contre le gouvernement en place. Mais ses actions disent tout le contraire. On voit bien que le rapport brutal et intransigeant avec l'opposition en tant que concept a quelque chose d'inné chez Hassan Thani. Il ne l'hérite pas de son père. C'est lui-même, tout jeune prince qu'il a pu être un jour, qui déteint sur Mohamed Khams, qui est à l'origine des mesures violentes qui ont pu être prises pendant le règne de son père. Aujourd'hui, le souvenir de Hassan Thani a un goût changeant de palais en palais, de langue en langue, chez les Marocains. Certains font l'erreur de fermer les yeux sur le bien qu'a pu faire le défunt roi. D'autres parlent de lui comme on parlerait d'un ange, d'un saint, et font l'erreur d'ignorer, d'enterrer le souvenir de la douleur qu'il a causée à de nombreuses personnes, de nombreuses familles, du tort qu'il a causé au système, et de la brutalité qui caractérise bon nombre de ses actions politiques. Mais les Marocains, et il y en a énormément, qui voient la réalité de son règne dans son ensemble pour ce qu'elle est, c'est-à-dire tout à la fois profitant grandement à notre pays et causant parfois du préjudice à son peuple, féconde et injuste, positive économiquement, diplomatiquement et cruellement brutale, ces Marocains font preuve d'esprit critique et savent ne pas tomber dans la validation ou la dénonciation systématique de ce personnage à qui on doit tout à la fois des traumatismes et les avancées les plus majeures de ce pays. Alors, comment parler de Hassan Thani sans parler des années de plomb, As-Sanawat As-Sawda? Ce nom est donné pour caractériser la répression, qui est un levier de pouvoir que Hassan Thani n'a pas eu de scrupules à utiliser. Ces années correspondent à une période qui s'étend entre les années 70 jusqu'à la mort de Hassan Thani en 99. Un chapitre de l'histoire marocaine écrit à l'encre noire de la violence à l'égard des ennemis politiques du roi souverain. Autrement dit, à l'égard de tous ceux qui nagent publiquement à contre-courant de sa volonté et de ses idées. Il n'est pas difficile de comprendre que l'indépendance du Maroc vis-à-vis des deux sangsues coloniales, et je pèse le terme, qui lui ont pompé son énergie vitale pendant des décennies, à savoir l'Empire français et l'Empire espagnol, cette libération, du moins sur le papier, a été un tournant politique plus que majeur, critique, vital pour le Maroc. Pendant la colonisation, des esprits marocains s'étaient éveillés aux enjeux du monde contemporain, à des idéaux nationalistes, tiers-mondistes, alimentant l'engrenage de la libération nationale. Et bien que les autorités coloniales se soient lancées à la chasse à l'intellectuel marocain, bien que nombre d'entre eux ont perdu la vie pour le Maroc, comme Zarqtouni, une des plus grandes figures de la libération nationale, nombre d'entre ces esprits politiques ont survécu au typhon de l'indépendance, à la mort du roi Mohamed V, sallallahu alayhi wa sallam, et ont continué à fomenter des projets assez singuliers pour le Maroc, différents de ce qu'il connaît et surtout différents de ce que le roi Hassan II du nom souhaite. Des hommes comme Selfati, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la France coloniale laisse derrière elle une élite politique, administrative et militaire puissante, bien établie sur le sol marocain depuis près de 20 ans, avec une influence considérable à toutes les échelles. Ainsi, dès son ascension au pouvoir, Hassan Thani prend le parti de s'appuyer pleinement sur ses bourgeois, ses industriels, ses politiciens, généralement francisés ou francophiles, et anti-istiqlaliens, dont le général Oufkhir, par exemple, dont on parlera plus tard. Alors beaucoup d'intellectuels marocains pro-istiqlal, donc indépendantistes, s'insurgent et forment une opposition à visage divers, mais qui s'articule globalement autour d'une même volonté de faire du départ des autorités européennes une opportunité de renouvellement politique. Parmi eux, on trouve Bounbarka, qui, d'après la description qu'en fait le roi Hassan Thani lui-même dans ses mémoires, longtemps son grand ami, maintient l'idée que la monarchie est nécessaire au maintien d'une unité, mais souhaite détenir un contrôle total sur le pouvoir exécutif et sur l'armée, que ses prérogatives du pouvoir soient ôtées à la monarchie. Ce que Hassan Thani dit reprocher à ses opposants politiques, c'est, et je le cite mot pour mot, qu'il voyait l'accessoire avant l'essentiel, que très vite, le dialogue ne se déroulait plus sur la même longueur d'onde, qu'il ne volait plus à la même altitude, et que ce fut là le drame du Maroc. Fin de citation. À peine 2 ans après son intronisation, quelques voix contestataires s'élèvent déjà dans les rangs, ne cherchant pas le moins du monde à maîtriser leurs inflexions. Du moins, c'est ce que suggère le roi à l'époque lorsqu'il colle un procès politique à l'UNFP, Union Nationale des Forces Populaires, en partie constituant une branche de la gauche et par nature, un des ennemis politiques numéro 1 de la monarchie. Voici le déroulé des faits. Par une chaude après-midi de juillet 1963, les autorités marocaines font irruption au siège du parti à Casablanca sur ordre royal et l'inspectent de fond en comble. Ce jour-là, des grandes figures de la gauche marocaine sont réunies pour discuter de leur prochain statement politique. Ils comptent unanimement s'abstenir lors des élections municipales à venir. Une action, somme toute simple, en signe de protestation. Après les fouilles, la police missionnée par Hassan Thani quitte le bâtiment sans un mot, rien d'alertant pour le parti, qui poursuit son activité. Mais quelques jours plus tard, un communiqué royal, que j'ai pu retrouver en fouillant bien les archives, fait savoir au peuple, je cite, « qu'un mouvement de rébellion tendant à l'atteinte à la sûreté de l'État a été découvert et son instigateur, le résistant marocain et homme politique Mohamed Bassali, a été arrêté. » Ce visage, ce nom, est très familier à la monarchie puisqu'il avait déjà été arrêté en 1960, donc 3 ans avant les faits, pour un motif similaire de complot ou pseudo-complot. Il avait été torturé, et on peut naturellement s'attendre à ce que ce soit à nouveau le cas cette fois-ci, en 1963. Il est d'autant plus une tête à abattre pour la monarchie qu'il dirige un quotidien, un journal, d'opposition de gauche. On accuse l'UNFP d'avoir attenté à la personne de Hassan Thani. En d'autres termes, d'avoir fomenté un complot, d'avoir prémédité un meurtre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le passé politique de Mohamed Bassali n'a pas du tout joué en sa faveur. Maintenant, comme on aime le faire dans ce podcast, on va explorer différents angles de vue. Alors d'un côté, beaucoup d'intellectuels pensent aujourd'hui, et même déjà à l'époque, que ce procès politique aurait tout d'une mise en scène, qui aurait été prétextée et imaginée par feu Sa Majesté Hassan Thani, Allah rahmo, et ses conseillers, afin de fragiliser une opposition qui est visiblement très active et menaçante pour le pouvoir monarchique, afin d'intimider ses détracteurs et de se débarrasser de figures qu'il considérait dérangeantes, comme celle de Basri. D'un autre côté, dans ses mémoires, page 105, lorsqu'on lui pose la question « Sire, en 1963, y a-t-il eu réellement un complot fomenté contre vous ?» car déjà la rumeur d'un coup monté du palais est assez populaire à l'époque. Hassan Thani répond ceci, et je cite ses mots. « Oui, le terme de complot peut se discuter, mais en réalité, c'en était un dans l'esprit de ceux qui l'ont préparé. » Non, attendez, je vais rigoler. Attendez. C'est pas drôle du tout, mais c'est surtout très ironique. Et je vais parler hors citation, ça n'a rien à voir, c'est pas Hassan Thani qui vient de dire ce que j'ai dit. On aurait aimé, mais non. Ce qui se passe en fait, c'est que la monarchie, le pouvoir, le souverain, Hassan Thani, comme vous voulez l'appeler, reproche à ses détracteurs de penser à l'opposé de lui. Et appelle cela un complot, voilà. Et Hassan Thani le dit lui-même, d'accord ? Quand il dit le terme de complot peut se discuter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que bon, il n'y a pas de preuves, on n'a rien trouvé quand on est allé fouiller le QG de l'UNFP, on n'a rien trouvé qu'il soit contre ma personne, seulement voilà, on a trouvé une réunion où ils discutaient de leur désaccord avec la politique ou le gouvernement en place et la politique de Hassan Thani de manière générale. Ce qui est pourtant le propre et la définition de l'opposition. On reprend, oui, le terme de complot peut se discuter, mais en réalité, c'en était un dans l'esprit de ceux qui l'ont préparé. Comme il s'agissait d'amateurs qui ont été jugés avec des critères que l'on applique habituellement aux professionnels, les gens ont pensé qu'on avait peut-être grossi les choses. Donc Hassan Thani admet dans ses mémoires avoir exagéré les choses, exagéré le motif d'arrestation, sous prétexte que les critères avec lesquels ils ont été jugés sont des critères qu'on applique habituellement aux professionnels et que du coup, on pouvait pas, il n'avait pas de moyen d'arrêter ces personnes de l'UNFP sans un réel motif comme préméditation d'un meurtre, etc. Donc, sous prétexte qu'il ne disposait que du jargon criminel, il l'a utilisé pour des faits qui n'étaient pas criminels. On parle d'amateurs, comme il disait, voilà, il s'agissait d'amateurs. Bon. Des sources commencent à chuchoter à l'oreille du roi que des intimes, des personnes qui lui sont proches, auraient eu un rôle à jouer dans le dit complot de juillet 1963. Les noms qui ressortent le plus choquent. On parle du militaire Mdboué, un aide de camp qui, on le verra plus tard, sera à l'origine du complot de 1971, qui pour le coup en était vraiment un. Et ce même Mdboué a été épargné par Oufkir, le bras droit de Hassan Thani, selon certaines sources, par amitié et par intérêt. On entend dire qu'Oufkir aurait pardonné à Mdboué dans le seul but de l'avoir sous sa coupe et de pouvoir compter sur sa loyauté lorsqu'il aura besoin de se servir de lui. Alors quand on sait que plus tard ces deux gaillards-là ont été jugés pour trahison aggravée à la personne du roi, cette théorie ne semble pas infondée. Mais quand on lui demande s'il y croit, Hassan Thani est catégorique. Il est persuadé qu'aucun des deux n'a quelque chose à voir avec le complot de juillet 1963. Déni de l'ampleur de la trahison de celui qui a pensé son ami, ou affirmation avec preuve à l'appui. On sait aujourd'hui qu'après les émeutes de Casablanca en 1965, dont on va parler tout de suite, la plupart des personnes condamnées par ce procès politique ont été graciées, pardonnées par Hassan Thani. Le roi explique qu'il l'avait fait dans un esprit d'apaisement. Une autre date sinistre s'ajoute à la liste de celles qu'on ne retient toujours pas dans les livres d'histoire, et qui pourtant a meurtri près d'un millier de familles marocaines. Il s'agit des manifestations qui ont eu lieu à Casablanca, capitale économique du Maroc en plein essor, et cette fois-ci c'est la jeunesse qui élève sa voix contre le souverain. Alors voyons voir un petit peu l'élément déclencheur. En février 1965, le ministre de l'Éducation nationale, Youssef Blabbès, et son gouvernement interdit l'entrée dans le cycle secondaire, l'accès au lycée public, à tout jeune Marocain de plus de 16 ou 17 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est loin de se douter de l'impact de cette annonce lorsqu'il tient, d'un air hautain et trop serein, les propos suivants. Et je cite « Il est nécessaire que seuls les élèves en mesure de suivre leurs études dans l'une des branches du lycée puissent y accéder. » Fin de citation. Mesure drastique, injuste, sans doute prise pour encourager les familles à mettre rapidement leurs enfants sur les bancs de l'école. Je dis ça parce que c'est important pour bien comprendre une péripétie politique et un traumatisme sociétal comme celui-ci, de bien discerner le pourquoi du comment sans le rendre défendable pour autant. S'il ne l'est pas, c'est pas le but. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque au Maroc, de nombreux étudiants n'ont juste pas d'autre choix que d'entamer les études assez tard, pour des raisons évidentes, qui dérivent de la précarité et de l'illettrisme dans lesquels vit toujours une grande partie de la population marocaine à l'époque. Cette mesure est autant un très mauvais calcul politique qu'elle est injuste, et il n'est pas difficile de le comprendre. L'appliquer revient tout simplement à encourager le découpage de la société en catégories hiérarchisées, à promouvoir les inégalités sociales. Ça veut dire qu'une grande partie des Marocains se voit privée du droit fondamental et universel, inaliénable et essentiel de bénéficier d'une éducation. Car alors, seule l'élite marocaine et quelques familles modestes pourraient permettre à leurs enfants de passer le baccalauréat. Et certes, dans le Maroc de 1965, passer le bac est quelque chose de très peu courant. Avoir une mention, je peux vous dire que ça relève de l'exception, et ça l'a été encore pendant très longtemps. Oui, dans le Maroc de 1965, seuls 1500 élèves obtiennent leur diplôme du secondaire chaque année. Non pas par lacune ou par manque de performance de la jeunesse marocaine, bien au contraire, mais parce que l'examen est rendu laborieux, difficile, certains diraient même impossible, exprès et justement dans le but de ne laisser qu'une petite poignée d'élèves passer entre les mailles de ces filets. Sans doute pour conforter une élite dans l'idée débile et infondée qu'elle est supérieure au reste du peuple marocain. Élite égale industrielle égale pouvoir égale mieux vaut ne pas se les mettre à dos. Ou du moins, c'est ce que se dit Hassan Thiani et on l'expliquait au début de l'épisode. Ainsi, ce circulaire signé par Youssef Blabbas, donc le ministre de l'Éducation, cette décision du gouvernement aggrave la situation déjà dramatique pour l'éducation au Maroc. Mais ça, seuls quelques intellectuels, dont des professeurs, des enseignants et la jeunesse semblent s'en rendre compte. Alors, les enseignants poussent la jeunesse à prendre les armes de manière irresponsable, à ses risques et périls. Bon, déroulé des faits. Soutenu et très certainement instrumentalisé par le parti de gauche de l'UNFP, qui entretient des liens très forts, presque filiaux, avec le syndicat étudiant de l'UNEM, qui est du coup l'Union Nationale des Étudiants du Maroc, le 22 mars 1965, au petit matin, une vague de lycéens noie la verdure du terrain de football du lycée Mohamed Khams, en face du parc Mordoche pour ceux qui connaissent. Jujumal se représente. Le syndicat étudiant est craint par la monarchie. Il est composé d'intellectuels qui ont des idées qui dépassent la temporalité dans laquelle Hassan Thani souhaite inscrire le progrès. Il dira d'eux qu'ils sont trop impatients, trop véhéments. Ces enseignants, ces érudits, ces professeurs entretiennent un lien très fort avec la jeunesse, de par leur profession. Ainsi, ils les sensibilisent à des causes, et certains diront même, instrumentalisent l'ardeur, la passion qui sont propres à ces âges. Hassan Thani pressent le danger que représenterait la proximité d'une telle opposition avec la jeunesse marocaine. Danger, pas pour lui, hein, pour le maintien, son maintien au pouvoir, pas parce que c'est une mauvaise chose en soi. De toute façon, la jeunesse se trouve toujours au cœur de combats d'idées auxquels elle est rarement conviée, du moins pas dans ses premiers instants. Et je rajouterais même que les adultes accouchent d'idées, nourrissent des idées dont les jeunes meurent. Quel que soit le pays, la jeunesse est toujours sujette à beaucoup d'efforts d'endoctrinement de toutes parts. Et dans ce jeu d'endoctrinement auquel prend part et l'opposition et la monarchie, Hassan Thani souhaite avoir l'avantage, naturellement. Alors, dans un dahir publié en 1963, l'UNEM est interdit d'accès aux étudiants. Et quiconque soutient le syndicat est menacé d'être arrêté et molesté, comme le sont régulièrement ses adhérents depuis des années. L'ancien président du syndicat avait par ailleurs été exilé en Algérie avant d'être condamné à mort. Mais le gouvernement sous-estime la fougue, l'élan et surtout l'insouciance de cette jeunesse marocaine nouvelle qui est le pur produit de la lutte contre les forces coloniales, d'un nationalisme déjà bien ancré dans leur socle de valeurs et surtout une jeunesse malléable, sensible à tout discours quel qu'il soit. Des étudiants engagés, certes, mais également, et c'est une réalité qu'il faut prendre en considération et qui se vaut toujours aujourd'hui, des jeunes utilisés par des partis politiques, à des fins politiques, comme ça se fait beaucoup dans le monde entier, par des adultes conscients des risques qu'on peut encourir, quelle que soit l'action politique menée, mais des adultes qui n'hésitent pourtant pas un instant à mettre les jeunes au premier rang de la révolte. Et pourquoi les jeunes, tu me diras ? Eh bien parce que la jeunesse, et les politiques le savent bien, représente le pilier de toute nation. Elle porte à elle seule sur ses épaules vives tout le sens qu'on peut donner à la politique. Elle est la force d'un pays, mais à la fois sa plus grande faiblesse. Alors, le 22 mars 1965, c'est la première journée du rassemblement. Ils arrivent par milliers, et à 10h, le stade est noir de monde. Un témoin dira qu'ils sont plus de 15 000 lycéens à s'être mobilisés pour la jeunesse de ce pays. L'établissement de second cycle sur l'avenue Juge Mars est le point de départ d'une marche pacifique, du moins le 22 mars. La jeunesse marche d'un pas ferme, la tête haute d'indignation et d'espoir. Mais arrivée au niveau de l'Institut français à Bourgogne, les forces de l'ordre débarquent, non armées pour l'instant. La manifestation est dispersée brutalement, certains étudiants sont arrêtés et d'autres sont repoussés par les gros bras de Hassan Thani vers les recoins populaires à l'ouest du quartier de Bourgogne. Mais sans le savoir, la police vient de précipiter une rencontre qui va être déterminante pour la suite des protestations. Les militants lycéens échangent avec une autre catégorie socio-professionnelle, les chômeurs, les franges défavorisées de la population, qui vivent dans des quartiers pauvres. Eux-mêmes, pleins de revendications et de ressentiments pour le gouvernement de Hassan Thani, ils décident de s'allier à la cause de la jeunesse et ils se donnent rendez-vous dès le lendemain pour continuer le combat. Le 23 mars donc, le mouvement étudiant se réunit au même point de départ, mais cette fois-ci, ils ne sont plus seuls. Les parents, des ouvriers, des chômeurs, ainsi que des Marocains vivant dans des bidonvilles arrivent en masse des quatre coins de la ville, souhaitant matérialiser le ras-le-bol de la population. Sauf que ce matin-là, les manifestants décident de laisser leurs vœux de pacifisme dans la poche de leur pyjama. Le comportement du gouvernement de la veille leur a fait comprendre qu'un dialogue serein avec les représentants du pays n'est pas possible. Voilà bien longtemps qu'ils le savent. Mais tu sais, c'est comme quand on ferme les yeux sur les red flags d'un ex, parce qu'on veut le croire. Bon, bah là, la déception est quand même un peu plus importante qu'en amour, hein. On se l'accorde. C'est un bel euphémisme que je viens de faire. Enfin bref, passons. Les manifestants prennent d'assaut boulevard El-Fida et les rues avoisinantes, direction Deir el-Sultan, QG de la classe ouvrière, où des milliers de travailleurs se tiennent prêts à les rejoindre. Tous, ils se mettent alors à saccager la ville. Leurs yeux reflètent le désespoir, la colère, la désolation et le dégoût que leur inspirent les récentes mesures du gouvernement approuvées par la monarchie. Des témoins raconteront avoir vu des hommes, jeunes et vieux, saisis par la rage et le désabusement, attaquer furieusement à coups de pierres et d'insultes une caserne de police vers Qraa, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de bidon marché slash quartier populaire à Casablanca. Les vitres des magasins qui ont le malheur de croiser le regard noir de la révolte vole en éclats. Les poubelles et les bus de la ville brûlent dans de grands feux desquels s'échappent des volutes de fumée noire. Des voitures explosent à chaque coin de rue. Bref, le chaos qui règne dans la ville est à la mesure de l'amertume qui mue le peuple. Naturellement, la police intervient à nouveau, cette fois-ci avec des renforts, les forces armées royales. Et dans un premier temps, ils reçoivent l'ordre de disperser les manifestants comme ils l'ont fait la veille. Mais les choses ont trop dégénéré pour qu'ils y parviennent cette fois-ci. Alors, sur les coups de 15 heures, le vent de la répression se met à souffler à contre-courant de la révolte. Hassan Thani mobilise l'armée, des chars d'assaut, des armes à feu, et les autorités tirent à balles réelles sur les manifestants. Les représailles du pouvoir font trembler le sol goudronné de Casablanca et enterrent aléatoirement des centaines de vies humaines. Le nuage de protestation qui plane sur la ville est tellement vaste qu'il faut 2 jours aux forces de l'ordre pour le dissiper. Le général de division Oufrir lui-même, grand ami de Hassan Thani à l'époque, avant qu'il la lui mette à l'envers, monte en personne dans un hélicoptère et n'hésite pas à mitrailler le peuple marocain. Les trottoirs de Casablanca sont couverts de sang, et pas n'importe lequel. On parle du sang de jeunes étudiants marocains avec toute une vie devant eux, qui se sont battus pour un de leurs droits les plus essentiels, l'éducation, et se sont laissés entraîner par plus mûrs et plus intelligents qu'eux. Le pouvoir en place établit un rapport absurde, étant donné l'ampleur des dégâts causés, même insultant pour les familles qui ont perdu leurs proches, rapport que l'on sait aujourd'hui très faux et truqué, de 10 morts seulement. Vous m'entendez? 10 morts. Alors qu'en réalité, ce chiffre s'élève à bien plus. Mais le décompte ne fera jamais l'objet d'une enquête sérieuse et assidue. Alors certes, d'une part, la révolte cause du tort à des familles en saccageant leur commerce, du tort aux installations du service public, peut-être, on a tout à fait le droit de le penser, même si on sait que l'état de base des services publics à l'époque ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort, mais bon, ça c'est autre chose. On peut entendre ce genre de discours anti-militantisme, mais on ne peut pas le soutenir, car on ne peut pas comparer la condamnation de vie humaine via des arrestations, des blessés graves, des décès. On ne peut pas comparer un coup de poignard porté à la jeunesse du pays, un cloche-pied porté à son avenir. On ne peut pas comparer cela à des dommages collatéraux purement matériels, à moins d'être cinglé. Pourtant, dès le lendemain, l'élite gouvernementale se rassemble, prend la parole et s'empresse de faire porter le chapeau du drame aux enseignants, des intellectuels marocains, qui, même s'ils font pour la plupart plus de bien à la société marocaine que n'importe quel fanfaron du ministère de l'époque, il n'empêche qu'ils ont quand même envoyé les jeunes dans la rue en toute âme et conscience. Rappelons-le. En parlant de ministère, ils se prononcent tous dans un communiqué de presse en disant, sans mentir, et je cite, on expliquera après, certains enseignants appartenant à des organisations politiques et syndicales ont incité les élèves des lycées à mener des manifestations marquées par la violence et le vandalisme. Ces élèves se sont dirigés vers les rues principales de la ville et il a été remarqué que des éléments qui n'ont rien à voir avec les écoliers et dans des âges dépassant celui de la scolarité ont rejoint la manifestation. Fin de la citation. Bien joué ! Ils ont l'œil, dis donc. Ça n'a pas eu l'air de bien les choquer puisque ne s'en est suivi aucune remise en question de leur part. Rappelons quand même que cette manifestation a été faite dans le but d'obtenir une réponse, un ravisement de ce coup mortel qu'ils s'apprêtent à porter aux jeunes. Quelques jours plus tard, Hassan Thani prend lui aussi le parti de pointer du doigt le corps enseignant en faisant mention de cette tragédie dans un discours où il n'est pas une seule fois question des pertes humaines chères causées par les forces armées royales. Il dira « Je m'adresse aux enseignants et je leur dis que généralement, les hommes, et les intellectuels en particulier, sont habituellement assez courageux pour exprimer leurs idées, ne profitent pas des élèves et ne se cachent pas derrière les enfants. » Fin de citation. Eh bien moi je rajouterais, personnellement oui moi, que la jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. Plutôt que d'avoir voulu noyer le poisson, d'avoir voulu créer un sentiment de culpabilité au sein du peuple pour le dissuader d'élever la voix, pour réduire au silence des revendications fondées sur des décisions graves prises par une élite dont les enfants ne souffriront pas les conséquences, car ces enfants-là seront envoyés à l'étranger ou inscrits dans des lycées privés. Plutôt que de couvrir le peuple de honte, plutôt que d'accabler le corps enseignant, peut-être aurait-il fallu retenir la leçon, recevoir l'alerte, se remettre en question, écouter, car comme dirait un écrivain dont je ne me souviens plus du nom honnêtement, une décision prise pour la jeunesse sans la jeunesse et contre la jeunesse. Et pour finir, je rajouterai que, quand bien même les jeunes aient été précipités sur les trottoirs par des adultes irresponsables, parce que c'est ce qu'ils sont, parce qu'ils étaient conscients des risques, le problème vient de l'existence même de ces risques. Ces risques de perdre la vie en manifestant, pas du fait de les avoir pris. Un gouvernement qui respecte son peuple ne verse pas son sang avec autant de facilité. Et ça vaut pour tous les pays du monde. Hein. On peut faire ce reproche à plein de pays d'Europe de par l'histoire et même encore actuellement. La bassesse qui pousse à la violence n'a pas de nationalité. Et alors que la cause de la protestation de mars 1965, en ce qu'elle résulte d'une souffrance populaire qu'il convient aux dirigeants d'entendre et d'apaiser, est justifiable, la cruauté mortelle de la riposte, elle, ne le sera jamais.